I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Thomas Rozek.
Sachez que votre aide est la bienvenue pour nous permettre de continuer notre belle aventure. Ça se passe sur la plateforme de crowdfunding Ulule, ulule.com/binge-audio. On a besoin de votre soutien, il y a plein de super goodies en plus, donc c'est tout bénef. Et en attendant tout ça, on vous dit à très vite.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut, c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui cède certes à la facilité, convenons-en, mais c'est bon quelquefois de se laisser aller à ses bas instincts, ce qui nous pousse lorsque surviennent les fêtes à regarder en arrière, à remonter le fil de l'année écoulée. On a déjà traité une partie des bons et mauvais films sortis cette année, mais prétendre à l'exhaustivité ce serait un peu ridicule. Il y a donc plein de choses qui nous ont échappé, on va tenter de rattraper ça là tout de suite avec cette émission spéciale qu'on a baptisée Nos Ciné Awards, mais c'était pour rigoler, les prix et les médailles, on va laisser ça à l'industrie. Par contre, je décerne là tout de suite l'Oscar de la meilleure bande de cinéphiles de l'univers connu à l'équipe qui fait vivre cette émission tout au long de l'année, donc et dont une bonne partie est ici présente autour de la table. Daniel Andreev, salut Daniel.
Salut.
Yannick Dahan qui est à côté de toi, salut Yannick.
Salut.
Voilà, Rafik Djoumi, salut Rafik.
Salut.
Alexandre Hervaux, bonjour Alex, qui est caché derrière.
Bonjour.
David Honoraz, salut David.
Salut Thomas.
Et Stéphane Moïsakis, bonjour Stéphane.
Salut Thomas.
Et puis évidemment, on vous remercie, vous le public qui est ici avec nous à l'antenne Paris. Et on salue aussi les camarades Arnaud Bordas, Julien Dupuis, Charline Roux et Lélo Jimmy Battista qui ne pouvaient pas être des nôtres aujourd'hui mais qui méritent tout autant l'award précité pour leurs excellentes contributions. C'est Nos Ciné, épisode 64 et c'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Alors, on va essayer de faire très simple. On va discuter vraiment très tranquillement de cette année de ciné en évoquant ce qui nous a échappé, je le disais. Mais déjà avant, peut-être quelques mots rapides des uns et des autres sur le cinéma de 2016 de manière générale, y compris donc les films qu'on a déjà traités. Quel regard global vous portez sur cette année les uns et les autres? Qui veut commencer? Il y a Andreev et Hervaux qui discutent dans leur coin, donc c'est très bien. On va commencer par Stéphane, par exemple.
C'est un peu une année pas terrible, quoi.
Ah, tu disais une année de merde en micro.
Une année de merde, mais je reste poli.
Je sens que t'es très. Du coup, t'es intimidé par le public.
Voilà. Non, bah oui, c'est une année de merde, voilà.
D'accord,
je
ok.
Le dis.
Et pourquoi
Parce que la plupart. Enfin, il y a déjà zéro attente, hein, quasiment, moi je trouve. En fait, les attentes c'est quand même un peu des films. La plupart des films, on va dire, qui ont été des événements. Ont été assez décriés je sais pas si c'est vraiment... Il y a que le début d'année en fait où en gros on retient The Revenant mais qui était un film de 2015 pour les États-Unis, le Tarantino qui était un film de 2015 pour les États-Unis. Voilà, donc moi je retiendrai un film que j'ai beaucoup aimé quand on n'a pas parlé cet été qui était le BGG de Spielberg. Et voilà. Est-ce qu'on doit parler du reste des films vraiment ?
On va essayer de parler du reste des films quand même, mais David, si tu veux à ton tour dire un petit peu qu'est-ce que tu as pensé de cette année 2016 ?
Non, oui, bon, année pas terrible, mais quand même avec un très bon Tarantino, un très bon Frère Cohen, un très bon film français de Paul Verhoeven.
Elle.
Donc quand même pas mal de belles choses. Quelques films dont on n'a pas parlé dans Nos Ciné, sur lesquels j'imagine on va revenir, comme Everybody Wants Some de Linklater ou Comancheria de David Mackenzie, qui sont des films tout à fait corrects. Film d'animation aussi, Kubo, dont on n'a pas parlé.
Kubo et l'armure magique, on n'en a pas parlé, on n'a pas fait d'émission.
Donc voilà, pas mal de bonnes choses. Et puis des déceptions. Enfin. J'en parlais à propos de Star Wars, le niveau d'écœurement et de lassitude est total. Si on parle aussi des Marvel, moi j'ai décidé d'arrêter
d'y aller.
Tu arrêtes. Là c'est fini.
Tu as arrêté avec Batman vs Superman, je crois.
Alors là, c'était pas du Marvel.
Non, mais
c'était
bon, les super-héroïques, on va dire.
Voilà, donc les.
Donc t'as pas vu Suicide Squad ? On va essayer de parler un petit peu aussi.
J'ai échappé à Suicide Squad, donc vous me direz sûrement le plus grand bien. Et puis voilà, non, c'est quand même une année avec quelques grands auteurs, et y compris ceux dont on a parlé récemment, Clint Eastwood, Zemeckis et compagnie. qui sont à leur niveau, sans forcément qu'on ait l'éclat d'un Mad Max Fury Road l'année dernière. Voilà. Mais pour moi, Les Huit Salopards de Tarantino est un très grand film que j'ai adoré, mais qui est sorti en janvier cette année.
Yannick.
Ouais, globalement, un peu comme eux, assez déçu par une année où finalement, quand tu regardes un petit peu tout ce qui est sorti, il n'y a rien de fondamentalement marquant. On a aimé quelques films. Moi, tu vois, si, c'est un peu comme toi. Si j'avais dû dire le film que j'ai vu cette année qui m'a réellement scotché, c'est le Bayona, sauf qu'il sort le 2 janvier 2017, donc je peux pas le mettre là-dedans. Après, j'en reste sur les grands classiques, sauf que bon, je suis pas fondamentalement d'accord avec eux, parce que moi, par rapport à mes attentes, évidemment, j'attendais plus que tout le frère Cohen, j'attendais énormément le Tarantino, et j'ai été, moi, assez déçu par les deux, même si je leur trouve énormément de qualité, c'est pas des purs, loin de s'en faut. Et c'est plutôt vers la fin de l'année que j'ai été surpris. Donc moi, dans ma tête, si je devais vraiment... sans être extatique totalement, mais si je devais prendre le ratio un bon script super bien filmé et qui m'a émotionnellement touché, c'est le Zemeckis et c'est le Mel Gibson. Donc chacun qui sont pas forcément les meilleurs films de leurs auteurs respectifs, mais où là je sais que je vois du cinéma, il y a des tentatives visuelles, il y a des scénarios super bien écrits, et je verse ma petite larme, ou alors je suis scotché sur mon siège, comme c'était le cas avec le Mel Gibson, mais en tout cas ça m'a procuré quelque chose, là où c'est l'encéphalogramme place sur le reste, avec quand même l'été de blockbuster le plus catastrophique qu'on ait pu voir depuis extrêmement longtemps, c'est-à-dire qu'il y a même pas un truc qui sort du lot un tant soit peu, où on peut se dire... Tu donneras ton avis après.
Tu parleras après,
je parle de gros blockbusters. Moi, je sais pas, à la limite, des fois, sur des années minables, je pouvais toujours compter sur mon fantasme Star Trek. Ouais. Même là,
La liste des blockbusters, si on parle des films qui ont, au niveau international, le plus cartonné, ça donne effectivement une idée de notre désynchronisation totale avec le public mondial. Parce qu'on a Captain America qui est en tête, Finding Dory, Zootopia, Jungle Book. Donc déjà, il faut noter que les quatre premiers sont quatre Disney. Il y a cinq Disney en tout dans les 10 premiers films du box-office. Secret Life of Pets.
La vie secrète des animaux. Non, film d'animation que moi, j'ai pas détesté.
Batman vs Superman, qui, quoi qu'on en dise, reste un énorme carton. Deadpool, Suicide Squad, Fantastic Beasts et Doctor Strange. Donc, en gros, voilà le vote public international.
Donc, c'est ça. C'est complètement... C'est assez catastrophique. Mais c'est pire. Enfin, il y a vraiment... T'as quand même vraiment l'impression qu'au niveau cinématographique, au niveau de l'industrie cinématographique, ils savent plus quoi faire. On se raccroche à des pauvres.
Les chiffres des.
Non, mais ils savent sur les Disney, mais sur le reste, c'est assez lamentable. C'est-à-dire que c'est que des remakes, des suites, des trucs, des reboots. On se raccroche, mais ça fait jamais les scores qu'ils aimeraient que ça fasse. Donc voilà. Bon. Hormis ça, heureusement, on a encore 2-3 types qui valent le coup dans l'année, mais c'est quand même pas la fête du slip.
Daniel.
Bon, écoutez, je vous trouve très défaitiste parce que tous ces gens n'ont pas vu les néo-classiques de cette année, à savoir Les Visiteurs 3, Camping 3.
J'ai vu Les Visiteurs 3.
Ah, tu as vu Les Visiteurs
3.
Écoute, c'est un néo-classique qu'on analysera encore pendant des années.
Carrément subversif.
On a consacré une émission déjà. Oui, c'est un film, je le rappelle.
Film qui se termine avec des nazis, avec Christian Clavier en collabo.
Le problème, c'est
ça laisse beaucoup d'espoir pour le futur.
T'as du sang dans les yeux au bout de 10 minutes, parce que bon, évidemment, en termes de découpage, on reste chez Jean-Marie Poiret. Mais j'ai trouvé que c'était carrément un film subversif. Quoi. Le film le plus anti-républicain et le plus anti-révolutionnaire de tous les temps.
Mais Camping 3 est en plus un petit peu plus homophobe et un petit peu plus raciste. Donc, il a quelques qualités, tu pourrais me dire.
Mais non, est-ce que dans Camping 3, on t'explique que si la France tient debout, c'est parce qu'il y a des gens riches dedans.
C'est un
petit peu le message, en tout cas, que j'ai retenu des visiteurs. C'est heureusement qu'il y a la bourgeoisie pour faire tenir un peu ce bordel.
Comment est-ce qu'on en est arrivé à parler des Visiteurs 3 en faisant une émission bilan sur 2016?
C'est ça qui m'étonne, en fait. Mais puisqu'il
faut. Je te dis que c'est une année de merde.
Puisqu'il faut tirer des choses positives, on a quand même une grande résurgence du cinéma asiatique qu'on n'a plus vu depuis 5-6 années, quand même. Et le cinéma japonais encore plus. Et là, on a quand même une belle attaque japono-coréenne, quand même. Je pense tu parlais de blockbuster, mais le seul blockbuster potable de cet été, c'est quand même Le Dernier Train pour Busan. C'est un film d'action.
Ce n'est pas un blockbuster, mais c'est un bon film.
C'est un blockbuster made in Korea. Il cartonne. Il est selon les termes coréens. C'est un blockbuster.
Le blockbuster chinois de l'année, c'est The Mermaid, qui a fait 500 millions de quelque chose comme ça.
On a encore beaucoup
Ne sortira donc jamais en France parce que.
Laissez parler Daniel, s'il vous plaît.
On a The Strangers, qui était vraiment très intéressant.
Je suis d'accord.
On a Mademoiselle, qui est vraiment un film très important, je trouve. Vraiment, il y a eu de bonnes choses qui viennent. Au Japon, il y a Your Name, donc Kimi no Na wa, qui sort en toute fin d'année. Et ça, c'est un des grands films de l'année. Il sort le 28 décembre. Vraiment, il y a de bonnes choses qui viennent d'Asie. Et ça fait très, très, très longtemps, quoi. Donc, il n'y a pas que le cinéma américain. Il n'y a pas que le cinéma français, la bonne comédie française. Il y a aussi de bonnes choses qui viennent de là-bas.
Alexandre.
Ah, qui c'est qui marche sur le micro, là? C'est Yannick. Donc Daniel a piqué ce que j'allais dire sur Dernier train pour Busan, qui était effectivement pour moi le meilleur film que j'ai vu, meilleur film à grand spectacle, si on ne peut pas dire blockbuster, de cet été.
On ne peut pas dire blockbuster.
Non, non. Non mais voilà, c'est le truc qui a vraiment sauvé mon été cinéma. Sinon je me suis fait une petite liste manuscrite de choses qui m'ont marqué dans l'année, donc beaucoup de choses ont déjà été évoquées ici. Et des films qu'on a traité dans nos ciné, sur lesquels on n'est pas revenu là, mais on peut citer Anomalisa, qui était quand même un film assez marquant. On l'a cité, mais Kubo en animation, des studios Laika, qui était vraiment aussi une bonne surprise. Après, dans les films qui feront peut-être un peu plus débat entre nous, des choses qui m'ont marqué cette année, il y avait The Witch, un film d'horreur assez...
On a consacré une émission,
voilà, qu'on a beaucoup aimé. Green Room, deuxième film, pas son deuxième, mais son dernier film, en tout cas, Jeremy Saulnier, qui avait déjà fait Blue Room. Il aime bien les films avec des couleurs dedans. Et Green Room, c'était quand même assez excellent. Et en plus, c'est un film qui marquera 2016 parce que ce sera un des derniers films avec Anton Yelchin, l'acteur qui est décédé il n'y a pas très longtemps et qu'on a vu aussi dans Star Trek 3 cette année. Et puis moi, voilà, dans les d'autres choses qui m'ont marqué, on l'avait aussi noté, on avait fait une émission dessus dans nos ciné, The Nice Guys de Shane Black, qui était son retour depuis Iron Man 3, enlevé de tout le carcan Marvelo-Disneyen, vraiment un buddy movie à l'ancienne, mené par Russell Crowe et j'ai oublié son nom, ce con.
Ryan Gosling,
qui est quand même assez chouette. Je suis assez d'accord évidemment avec le reste de mes camarades sur la relative pauvreté de cette année 2016. En même temps, ce qui est assez cool avec le cinéma, mais bon, ça marche pas qu'avec le cinéma, c'est pareil avec la musique ou la littérature, c'est que on ne se contente pas que de ce qui sort, il y a aussi ce qui ressort, ce qui est réédité, ce qui est disponible sur les services de VOD par abonnement, etc. Donc moi, mine de rien, si j'enlève les films sortis en 2016, heureusement, Dieu merci, j'aurais vu quelques bons films cette année. Et puis, pour sortir complètement du carcan fun, genresque, etc., qu'on a vu cette année, on a parlé d'Allier tout à l'heure, de Zemeckis, qui, moi, effectivement, m'a beaucoup plu. Mais dans les choses un peu plus autorisantes, si j'oserais dire, j'ai beaucoup aimé, côté comédie française, La Loi de la Jungle. J'ai beaucoup aimé Tony Erdmann. J'ai bien aimé Poesia Sin Fin de Jodorowsky, même si je trouve que c'est pas aussi bien que sa danse de la réalité. Et j'ai bien aimé aussi Midnight Special. Voilà.
Ah. Dis donc, tu nous as parlé Daniel de Nos Pires Voisins 2 là, dehors. Donc, assume.
Et Nos Pires Voisins 2, j'assume complètement.
Je pense qu'on peut ajouter Les Frères Grimsby aussi, parce que.
Exactement, j'assume
même,
aussi.
C'est quand même le film avec les meilleures explorations d'éléphants par l'intérieur.
Avec une scène effectivement dans un vagin d'éléphant qui a fait de très bonnes mémoires. Rafik.
Alors, moi, j'ai pas été vraiment beaucoup au cinéma super. Cette année, donc c'est pas vraiment la peine de m'inviter. Non, dans ce que j'ai pu voir, le seul film qui m'ait vraiment donné l'impression de sortir de nulle part, on le doit à des vieux briscards, en l'occurrence, c'est les frères Cohen, avec El César, qui à tout point de vue, au niveau de ce qu'il raconte, de la tonalité employée et même des idées de mise en scène, j'ai l'impression de voir quelque chose qui nous vient de nulle part d'ailleurs, quoi. Enfin, et c'est hélas ce que j'attends à chaque fois que je vais voir un film, c'est une exigence un peu tordue parce que tous les films ne peuvent pas être comme ça. C'est un magnifique film sur la foi, sous toutes ses formes, et en tout cas sur la façon avec laquelle on doit gérer la foi, et en l'occurrence là bien sûr en grande partie la foi dans le cinéma. Donc pour un cinéphile, c'est un véritable plaisir. Quand on aime l'histoire hollywoodienne, on se régale de toutes les subtilités dont le film regorge, mais ça s'arrête pas qu'à ça. Je suis un peu déçu de n'avoir pas pu assister à l'émission parce que j'avais pas vu le film en projo de presse. Je me serais bien étalé dessus. Sinon, j'ai pas assisté non plus à cette émission. J'ai découvert, grâce à vous, messieurs, et je vous en remercie, Gods of Egypt.
Ah, bien sûr, évidemment, mais oui.
Qui, voilà. Non, mais voilà, voilà, voilà l'exemple du mauvais bon film qu'on aimerait voir.
Du bon mauvais film.
Bon mauvais film. Voilà, effectivement, totalement opposé à tout ce qui nous peine dans les productions Disney Marvel, complètement délavées. Voilà, un film de what the fuck total, fait par un gamin de 8 ans, mais littéralement. C'est-à-dire, moi, c'est exactement les idées connes que j'avais dans mon bac à sable, quoi, avec mes figurines Matchbox de quand j'étais môme. Donc, je suis ravi que. Je suis ravi qu'on laisse encore à des irresponsables le soin de faire des films pareils. Je m'en régale. Kubo et l'armure magique, dont on est plusieurs ici à avoir vraiment constaté que c'était un des beaux moments. J'ai jamais pleuré aussi vite, je crois, dans un film, puisque j'ai, en gros, je suis allé à partir de la. Je ne veux pas dire de bêtises, la 20e seconde.
Ah oui.
Ouais, quelque chose comme ça.
Bon. Le film sensible.
Je suis vraiment une chouchotte. J'ai été surpris aussi par la relative tenue d'un film dont je n'attendais pas grand-chose, qui est Don't Breathe. Je ne sais pas si vous aviez fait une émission là-dessus. Voilà, qui était un
très bon film d'horreur.
Un thriller, comment dire. Un film d'invasion inversé, où ce sont les envahisseurs qui deviennent les victimes de la personne qu'ils ont tenté d'envahir. Donc, en l'occurrence, un aveugle ancien d'Irak qui les piège alors qu'ils étaient en train de le cambrioler. Fait par Fedo Alvarez, une équipe latino-américaine sur un thriller américain assez inattendu et plutôt bien maîtrisé. Et puis, bon, évidemment, il y a eu le Mel Gibson qui nous a réunis ici.
Très bien. Alors, est-ce
le Mel Gibson, Daniel, qui peut quand même être un petit peu nanardeux si on le regarde sous.
On a déjà fait l'émission sur Mel Gibson. Il fallait venir.
Il y a un petit côté un petit peu jouissif là-dedans.
Il fallait venir il y a 3 semaines, monsieur Andreïev. Hein, il faut répondre aux mails là, quand on les envoie. parmi les films qu'on a oubliés, on a commencé à les évoquer un petit peu. Il y a notamment Everybody Wants Some. David, tu faisais partie de ceux qui voulaient défendre ce film de Linklater. Je te laisse la parole.
Oui, donc c'est un film de Richard Linklater qui est un réalisateur américain, on va dire éclectique, qui s'est frotté à des genres et des projets très différents, qui s'est peut-être fait connaître particulièrement il y a je crois 2 ans pour Boyhood, qui est un projet qu'il avait mené pendant 12 ans avec les mêmes acteurs. Un jeune enfant et qui a
fait Rock Academy et qui dit Alexandre Herbeau, mais c'est moi, c'est un film que j'aime beaucoup, Alexandre, donc ça te fait rire peut-être, mais
j'aime aussi.
Merci, David.
Il a aussi adapté de la science-fiction avec une technique d'animation dans la rotoscopie, je crois, Scanner Darkly et un autre film dont j'oublie le titre à l'instant.
Walking Life,
ouais.
Merci Stéphane.
Il a aussi mené un projet avec Julie Delpy et Ethan Hawke pendant plusieurs années, et il y a 3 films qui suivent le parcours amoureux de 2 personnages portés par des acteurs qui, donc, également, un peu à la manière de Boyhood, ont vieilli avec le temps. Et il a fait un film que j'ai déjà évoqué dans nos ciné comme l'exemple que cite Tarantino pour définir ce qu'il appelle le hangout movie, c'est-à-dire un type de film avec lequel qu'on regarde pour passer du temps avec les personnages, comme si c'était des amis. Ce film s'appelle Dazed and Confused, Génération Rebelle en français. Et a révélé quelques acteurs dont il y avait, je crois, Ben Affleck dedans et tous les noms m'échappent.
Matthew McConaughey.
Son All Right vient de Génération Rebelle. Et donc on arrive du coup à Everybody Wants Some, qui est une sorte de suite spirituelle de ce film, donc qui est purement un hangout movie. On intègre un groupe de une équipe de baseball qui vit dans une frat house proche d'une université et qu'on va suivre 3 jours avant la rentrée à l'université. Et on suit à la fois les nouveaux venus dans l'université, ceux qui sont depuis un peu plus de temps. Et pour le coup, le génie de Linklater, qui l'a travaillé avec le temps et qu'il a travaillé notamment avec sa monteuse qui la suit depuis ses débuts, c'est de réussir à capter une ambiance et vraiment de traiter la chronique et qui, pour moi, est vraiment une question de montage au cinéma et de trouver comment on saisit tel ou tel instant, à quel moment on coupe et à quel moment en fait on va parfois laisser se développer un instant et du coup voilà suivre une partie de ping-pong ou une fête dans une boîte de nuit et parfois juste laisser l'amorce d'une séquence de vie dont on n'aura pas la suite, mais la suite va se développer dans notre esprit, peut-être se lier à des souvenirs personnels et créer quelque chose que je trouve extraordinaire. Il est aussi... j'aime beaucoup le ping-pong.
Et toi, Hervé.
Et on est à un moment un peu charnière. Le film se passe en 1980. Qui est aussi un moment charnière au niveau de la musique et le scénario fait passer les personnages trois soirées dans trois boîtes de nuit très très typées, donc ils font le disco, la country et une fête on va dire punk, et en même temps ils connaissent par cœur les paroles de Rapper's Delight qui chantent dans la voiture. On sent que c'est aussi une période charnière générationnelle assez intéressante. Donc voilà, je trouve que c'est un film assez beau qui est passé plus ou moins inaperçu. Et qui pour moi a réussi à créer une ambiance totalement unique dans le cinéma contemporain.
Est-ce que quelqu'un l'a vu aussi autour de la table et veut en ajouter un mot,
Rafik? Oui, moi, j'aimerais bien frimer à peu de frais et montrer que le monde est vraiment injuste. Je me suis jamais intéressé à Richard Linklater. À chaque fois, les bandes annonces de ses films refroidissaient. Ça ne m'intéressait pas du tout. Et pour une raison que j'ignore encore, Cinelive m'avait envoyé sur le tournage de Scanner Darkly à Austin, au Texas, où j'ai passé deux jours, dont une journée avec Monsieur Linklater, à qui j'ai révélé que je n'avais jamais rien vu de ce qu'il avait fait, ce qui n'est pas vraiment le genre de choses à faire professionnellement devant un artiste. Et il a pas du tout mal pris. Il me disait, mais pourquoi on vous a envoyé là? Et j'ai fait, je sais pas. et donc on a bouffé nos travers de porc caramélisés en parlant de complètement autre chose, de politique, de machin, de trucs. C'est un personnage absolument admirable, très 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 calme, très courtois, etc. Et en t'écoutant, je me dis, mais qu'est-ce que je foutais là, moi? C'est toi qui aurais dû y aller. Donc voilà, le monde est mal fait, désolé, je m'excuse.
Donc on envoie David sur le tournage du prochain Linklater. Merci, on va commencer à faire une quête dans le public pour payer le billet d'avion pour David. On n'a pas évoqué, Stéphane l'a cité rapidement tout à l'heure, le BGG. On n'a pas fait d'émission sur le BGG, ce qui est pourtant dans nos habitudes de parler de Spielberg quand même dès qu'on peut.
Ouais, c'était l'été.
Voilà, sur la plage, à Languille, tout ça, les uns à côté des autres. Stéphane ?
Bah, BGG, ouais, qui est sorti cet été, qui s'est assez bidé, ce qui est inattendu en général pour un Spielberg. Ce qui est peut-être un peu moins inattendu pour un film en performance capture, en tout cas en partie en performance capture. Je voulais aller voir le film parce que c'était un Spielberg, évidemment. Mais les bandes annonces, pour être tout à fait honnête, m'avaient vraiment refroidi. J'avais l'impression que j'allais voir le nouveau Hook, ce qui me faisait vraiment peur, en fait. Et c'est pas du tout ça. Pour moi, c'est tout ce que les gens attendent, en fait, d'un renouveau, d'une renaissance, en fait, d'Amblin, la boîte de prod de Spielberg des années 80, tout ce qu'ils attendent il y a que Stranger Things qui me vient en tête, mais il y a plein d'autres films en fait qui font référence
à.
Tous
pensé à Stranger Things.
Voilà, mais il y a plein d'autres films qui font référence à ce genre de
Super 8.
Voilà, exactement. Et qui pour le coup le refait complètement différemment. C'est-à-dire que en gros, c'est pas les mêmes films évidemment, mais c'est les mêmes sensations en fait. L'impression de voir un film. Un vrai film pour enfants que j'aurais pu découvrir à 10 ans et adorer et revoir et revoir et revoir en sans fin à l'époque, quoi. C'est un film merveilleux sur sur les rêves, quoi, et sur la façon dont on peut s'approprier un univers étranger, quoi. C'est un tour de force en termes de mise en scène, parce que c'est ça le problème en fait. C'est quand j'évoquais au début le problème des événements cinématographiques, c'est que pour moi qui ai grandi avec le cinéma, on a tous, je pense, une raison pour laquelle on aime le cinéma à la base, et on a tous un angle par lequel on regarde le cinéma assez personnel, et le mien c'est la mise en scène, c'est ce qui m'a toujours attiré, en fait, c'est la façon dont les films sont filmés, et c'est les projets de mise en scène généraux, en fait, et c'est quelque chose qui disparaît totalement au cinéma aujourd'hui pour... du filmage un peu générique, avec peut-être quelques beaux plans, quelques money shots pour faire passer la pilule.
Et là, non, en fait, on a un vrai film en fait qui s'intéresse au gigantisme, qui joue en fait justement avec la performance capture, avec le grand angle pour montrer justement la distinction entre les deux univers. Et c'est de ce point de vue, c'est un vrai régal, quoi. Donc, j'imagine que pour les gens qui regardent pas ce genre de choses, du coup, ils retiennent un peu le reste du film qui peut-être ne va pas leur convenir, quoi. Mais moi, je suis vraiment époustouflé par le film. Et je trouve qu'il fonctionne formidablement bien. Donc, je pense que c'est un film qui sera revu à la hausse avec les années, quoi. Et qui traversera le temps.
Qui d'autre?
Non, mais il a peut-être raison, ça va peut-être revu à la hausse, mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir BGG, en tout cas pas gamin, hein, pas comme nous qui découvrions E.T. quand on avait 10 ans, mais les gens qui comme nous
non plus 10 ans
plus jeunes vont voir ça, ont conscience quand même de aller voir un film de Spielberg. Ils ont peut-être pas un regard aigu sur la mise en scène, mais ils ont envie de plonger dans l'univers de Spielberg. Ils ont envie de ressentir des trucs. Moi ce que dit Steph sur BGG en termes de mise en scène, y a rien à dire. C'est imparable. C'est une leçon. C'est monumental ce qu'il fait. Il y a un enchaînement de séquences impressionnantes en termes de mise en scène. Par contre, alors après, c'est du ressenti, hein. Bien évidemment, ça n'engage que moi. Mais là-dessus, c'est zéro pointé en termes d'émotion. C'est-à-dire, c'est un film qui est censé être sur le merveilleux, qui je trouve ne fonctionne strictement jamais. Et c'est un triste sentiment insaisissable. C'est pas la chose où je vais te dire, mais la raison, c'est parce que le script, il est comme ci, ou le script. Ça n'a jamais marché, et au bout de 5 minutes, ça n'a marché pas. Alors après, j'ai mon interprétation, hein. J'ai trouvé effectivement que les personnages étaient posés. Je n'ai pas senti leur évolution. Je les trouvais mal amenés. Je trouvais que la menace était diffuse. J'avais l'impression d'une balade champêtre dans un monde de monstres, sans fondamentalement d'enjeux, et où je m'ennuyais profondément. Et pourtant, il y avait beaucoup de choses qui étaient telles quelles dans le bouquin, hein. Et c'était marrant parce que ça m'a vraiment créé cette espèce de décalage que j'avais pas ressenti, que beaucoup de gens aient ressenti sur Tintin, et où moi je l'avais pas ressenti parce que j'étais vraiment dedans, tant dans la mise en scène que dans le récit. Autant là, il y avait un distinguo très très clair. C'est-à-dire, je regardais le truc, j'ai jamais vu un Spielberg où j'ai autant regardé les plans en me disant, putain, il est mortel celui-là. Ah, ce plan, il est génial. Mais le film, j'étais jamais dedans. Jamais. Et je sais pas pourquoi.
Voilà. T'as préféré le cheval de guerre ou pas?
De loin, ouais. De loin, ouais.
Était émouvant. Il y a quelque chose qui se passe, David, quand même dans le dernier tiers du film, où j'étais un peu pareil, retenu sur l'émotion comme Yannick. Et à partir du moment où même la séquence à Buckingham Palace et toute l'envolée d'aventure du film, pour moi, fonctionne assez bien. Et j'ai un peu rangé mon frein jusqu'à être pris par l'émotion dans le dernier tiers.
Alex ? Je t'entendais parler dans ta barbe derrière.
Non, oui, c'était pour faire une vanne. J'ai pas vu le film. Hein, donc,
d'accord.
J'ai absolument rien à dire.
Tu peux fermer ta gueule alors.
Je peux fermer ma gueule. Ou on peut parler d'autre chose.
Pose ta bière.
Non, j'ai pas de bière. On peut parler d'autre chose aussi. Non. Ouais, c'est pareil. Si. Non, mais je vais pas faire le MC à votre place. Mais voilà. Non, parce que moi, sinon, j'avais d'autres trucs à dire.
D'accord.
Non, mais en vrai, ce que je voulais dire, mais je voulais pas forcément le dire maintenant, mais maintenant que j'ai le micro, je vais le faire. Pour parler, changer de sujet un petit peu, mais tout en gardant à l'esprit, le côté rétrospectif 2016 au cinéma. Je viens de dire justement au cinéma, et on le sait depuis, c'est pas nouveau, hein, on est habitué ici à regarder plein de films qui sont traités de direct ou vidéo comme si c'était un label infamant, alors que ça l'est pas du tout. Ça fait déjà des années qu'on, parfois les meilleurs films qu'on voit dans l'année ne sont pas distribués en salle en France, pour plein de raisons. Et cette année encore plus, je trouve. On a plus seulement le côté bac à DVD ou à Blu-ray pour se fournir en films qui n'ont pas d'exploitation salle. On a aussi maintenant la VOD ou cette espèce de pseudo-arnaque qui est le e-cinéma avec les films qui sortent en VOD à plus cher. On a aussi la SVOD, donc dont le principal représentant en France est Netflix, qui vient de fêter ses 2 années d'implantation en France. Et c'est vrai que quand on parle rapidement avec des gens qui font pas trop gaffe au catalogue de Netflix, ils ont cette image-là, pas forcément injustifié d'ailleurs, de ramassis de vieux films, sachant que la chronologie des médias en France impose 36 mois, donc 3 ans pour les films sortis en salle, qui sont disponibles sur Netflix. Sauf que du coup, un service comme Netflix ne se contente pas uniquement de proposer des films qui sont sortis en salle, il propose aussi des films qu'il produit lui-même, hein, des productions Netflix qui sont pas forcément d'ailleurs très intéressantes. La Beast of No Nation avec Idris Elba m'avait pas forcément trop plu. Il y a eu depuis Jadotville avec Guillaume Canet, etc. Mais le truc, c'est que ces services-là, comme Netflix, achètent aussi des droits de films qui du coup ne sortent pas en salle en France et qui du coup passent directement. Et c'est-à-dire qu'en fait sur Netflix, tu peux avoir des films extrêmement récents, des films de 2016 qui sont disponibles. Et moi, j'ai vu de très bons films inédits en salle en France cette année. Et je voulais juste le préciser, je sais qu'il y a notamment, on pourrait citer plein de films sortis directement sur Netflix, et pas que des films américains, il y a aussi des films européens. Et justement, un cinéaste que beaucoup autour de cette table, je pense, aiment beaucoup, qui est le réalisateur espagnol Alex de la Iglesia, qui a fait Le jour de la bête, 800 balles, Un crime farpé, mes chers voisins, etc. Pour la première fois depuis plus d'une dizaine d'années cette année, son dernier film n'est pas sorti en salle en France. Alors que tous ses films auparavant, le dernier en l'occurrence c'était Les sorcières de Zugaramundi, trouvaient toujours moyen de se frayer un chemin en salle.
Muertos de Risa n'était pas sorti.
Voilà. Ouais. Mort de rire, ouais, Muertos de Risa n'était pas sorti. C'était à partir de ce film-là, enfin après ce film-là, tous ses films étaient sortis en salle. Et là donc son dernier film, enfin son avant-dernier, puisque maintenant il y a El Bar qui va sortir l'année prochaine, mais son dernier film qui s'appelle...
Cet accent
espagnol.
Charanto espagnol.
Oh, le jour où l'air. C'est magnifique. Son dernier film qui s'appelle donc Mi Gran Noche, My Big Night, ouais. Qui est une comédie complètement frappadingue, qui est le pitch en deux secondes, ça se passe pendant l'enregistrement d'une émission de télé qui est censée être diffusée le soir du réveillon. Et comme chacun sait, les émissions elles sont pas en direct le soir du 31, donc c'est tourné bien avant. Et donc c'est un jeu de massacre voilà, dans un studio télé pendant cette émission-là. Et ce film-là, donc, est sorti en France directement sur Netflix. Même pas en VOD, même pas. Il a eu une projection dans un festival, je sais plus où, à Paris. Mais donc, voilà. Et le problème, c'est que Alex de la Iglesia, qui est quand même un artiste qui est assez respecté, qui a toujours le droit à sa petite critique par-ci, par-là, quand ses films sortaient en salle, là, le fait que le film passe directement sur Netflix a fait qu'il est sorti dans une indifférence assez généralisée. Et donc, pourquoi je me suis lancé dans cette tirade depuis maintenant 10 minutes 30.
C'est la question que je me pose.
C'était juste pour dire que, à l'avenir, je pense qu'on le fait déjà dans les recommandations de fin d'émission de nos ciné, mais à l'avenir, on sera peut-être plus obligé de se caler, même si l'exploitation en salle est hyper importante, et il faut qu'on aille, faut privilégier ça, il faut aller voir les films au cinéma, évidemment, mais dans l'état l'état actuel des choses et de la distribution, les meilleurs films ne sont pas forcément ceux qu'on voit en salle. Et il y a plein de films. Je pense au documentaire Tickled qui est sorti sur Netflix directement. Un film remarqué à Sundance qui s'appelait Other People. Le premier film au box-office allemand de 2015 sur un
tu
truc à la...
Tu suis le box-office allemand beaucoup,
oui, oui, ça m'arrive. c'est un espèce de Borat-like sur le...
Sur Netflix, tu vois.
un espèce de film à la Borat sur le retour de Hitler en Allemagne. Premier du box-office en Allemagne, directement sur Netflix en France.
Il est revenu, je crois.
Voilà. Et donc, bon, moi, je voulais juste faire un petit big-up à Alex de la Iglesia au passage et signaler juste que des bons films, il en sort aussi, mais pas en salle. Voilà.
D'ailleurs, on peut préciser que je crois le 23 décembre sort sur Netflix le spécial Sense8 de Noël.
Le Christmas spécial, ouais.
Voilà, Sense8, une série qu'on a âprement défendue dans cette émission qui va se conclure. Rafik, tu voulais. Ah oui, d'accord, oui. Bah,
tu
oui.
veux pas qu'on chie sur cette quad alors.
Je peux
essayer de faire vite, en fait. C'était juste pour notifier qu'on a tous remarqué ces dernières années que la qualité scénaristique avait peu à peu dévié du cinéma vers les séries télé. Mais au moins, le cinéma était censé garder son atout premier, qui était la mise en scène. Et les séries ne se hissaient pas à ce niveau. Le problème, c'est que c'est aussi en train d'arriver. L'année dernière, on avait eu la saison 2 de Fargo, qui présentait vraiment un effort de mise en scène étonnant. Année, il y a eu The Night Of, qui est, je crois, très nouveau, est une série télé qui fonctionne énormément sur les atmosphères. Donc, vraiment, là, pour le coup, de la pure mise en scène.
Et donc... qui repose vraiment sur l'ambiance plus que...
Et ça, je dirais que c'est un peu un phénomène inquiétant pour ceux qui, comme nous, aiment aller découvrir le talent de mise en scène au cinéma, dans des films justement comme Mademoiselle, que tu citais tout à l'heure, et tout ça, qui c'est un peu la raison pour laquelle on va au ciné. Si même le ciné ne nous offre plus ça et la télé nous l'offre, c'est pas compliqué. Et
parce que là, on cite Fargo, saison 2, qui est absolument génial, qui est une série mortelle, comme The Night Of, mais plus grand public que ça et bourrin que ça. Les deux derniers épisodes de Game of Thrones sont en termes de mise en scène plus spectaculaires que tous les blockbusters que j'ai vus depuis un bon moment. Donc rien que ça c'est même pas en train d'arriver. C'est là maintenant. Tu vas voir l'avant-dernier épisode de Game of Thrones, c'est bon, t'as vu ton blockbuster, tu vois, c'est plus la peine d'aller au cinoche.
C'est plus la peine d'aller au cinoche, surtout quand on voit des films comme Suicide Squad, dont Stéphane voulait absolument parler. Je peux te laisser 15 secondes si tu veux pour dire que c'est de la merde.
c'est de la merde.
Ah ouais,
il y avait quand même beaucoup de daubes rigolotes quand même cette année. Independence Day Resurgence est extraordinaire. extraordinaire.
T'as réussi à rire à ça.
Ah non, non, c'est génial. Non, non, ça mais il y a Jeff Goldblum, tu sens qu'il a cachetonné. Il est au volant de son petit bus scolaire au milieu du désert, poursuivi par un alien géant. C'est vraiment des images que tu peux pas oublier dans ta vie. C'est risible. Il y a The Shallows avec Blake Lively qui est poursuivi par un requin en image de synthèse.
Il y a que toi qui vas voir ces films-là.
C'est la chose la plus proche. C'est le croisement le plus proche qu'on a de Jaws avec Sharknado. À la fin, lui met un shoryuken sous-marin avec une. Ouais, c'est extraordinaire. Extraordinaire.
D'accord.
Et Gods of Egypt, évidemment.
Et Gods of Egypt, évidemment. Donc, on vous invite à réécouter l'émission. Avant de se quitter, j'ai un cadeau pour les gens qui nous écoutent. Le Flimvre de Nicolas et Bruno à la recherche de l'ultrasexe, auquel on a consacré d'ailleurs une émission, un extra bol de toute beauté avec Alexandre Hervault. Alors, pour le gagner, je pose une petite question aux auditeurs à laquelle je vous invite à répondre soit sur notre page Facebook, sur Twitter ou sur SoundCloud, la page de Nos Ciné sur SoundCloud. La question très pointue pour les gens qui ont vu comme moi des centaines de fois les messages à caractère informatif des mêmes Nicolas et Bruno. De quelle couleur est le diplôme de sosie du sosie de Francis Cabrel qu'on voit dans un des épisodes? Voilà, je vous invite à répondre à cette question et notre temps est écoulé. Merci à tous, merci messieurs pour cette année de cinéma haute en couleur, n'est-ce pas? Merci à Jules à la technique, merci au public qui a fait le déplacement ici à l'antenne Paris. Rendez-vous sur notre site nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement si vous voulez venir nous voir. Info à retrouver aussi sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, puisqu'on en parle. Sachez que votre aide est la bienvenue pour nous permettre de continuer cette aventure. Ça se passe sur la plateforme de crowdfunding Ulule, ulule.com/binge-audio. On a besoin de votre soutien et il y a plein de super goodies, dont des t-shirts et même un vinyle. Donc c'est tout bénef. N'hésitez pas non plus à noter favorablement, si possible, ce joyeux podcast sur iTunes. C'est bon pour notre avancement. Et en attendant tout ça, on vous dit à très vite.
Salut, c'est Mehdi Maizy, retrouvez nos fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans nos fun.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.